VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manilakiza avec vous, heureux de vous retrouver. Nous sommes vendredi le 23 octobre 2015, 9h à Washington, 13h temps universel. D'abord, l'actualité en Afrique, la lutte contre Boko Haram au Nigeria. Au moins 28 morts et 20 blessés. Tel est le bilan d'un attentat suicide aujourd'hui à Maïdougouri, berceau du groupe islamiste Boko Haram dans le nord-ouest du pays. Il y a eu deux explosions dans une mosquée à l'heure de la première prière du matin, selon des témoins oculaires. Et en Guinée, au moins 13 personnes ont été tuées en moins d'une semaine dans des violences survenues peu avant et peu après l'élection présidentielle du 11 octobre. C'est ce qu'a rapporté jeudi Amnesty International. Les détails avec Clairin Morin-Gibourg.
Ce bilan, établi pour la période du 8 au 13 octobre, comprend 6 morts à Conakry, la capitale, et au moins 7 à l'intérieur du pays, selon un communiqué de cette organisation de défense des droits de l'homme, publié au dernier jour d'une mission d'enquête de 2 semaines en Guinée. Parmi les 6 personnes mortes à Conakry, 3 ont péri dans des affrontements entre sympathisants de partis rivaux, qui ont aussi fait au moins 80 blessés, indique le texte. De même source, dans le reste du pays, au moins 7 personnes ont perdu la vie dans les mêmes circonstances. Les autres décès enregistrés dans la capitale sont 3 personnes tuées par les forces de sécurité.
Claire Morin-Gibourg. Au Congo, l'opposition au référendum de dimanche a annoncé hier soir l'annulation de la manifestation qu'elle prévoyait pour aujourd'hui à Brazzaville, en vue de dénoncer cette consultation populaire qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso d'obliger un nouveau mandat en 2016. Vent debout contre ce qu'il qualifie de coup d'État constitutionnel, le FROCAD, une autre coalition d'opposition, l'Initiative pour la démocratie au Congo IDC, ont tenté d'organiser des opérations de désobéissance civile. S'en sont suivis plusieurs jours de heurts entre les forces de l'ordre et les manifestants à Brazzaville et à Pointe-Noire qui ont fait plusieurs morts. Présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est dimanche. Sur le thème « Notre candidat, c'est la paix », une caravane sillonne la Côte d'Ivoire avant l'élection présidentielle de dimanche et prône la non-violence dans un pays encore traumatisé par la crise post-électorale de 2010 qui a fait 3000 morts. Et il y a 2 candidats, Amara Issi et Mamadou Koulibaly, point lourd de la politique ivoirienne, qui se sont retirés de cette élection. Et le président sortant, Alassane Ouattara, est donné grand favori. La Tanzanie organise dimanche des élections générales, présidentielles, législatives et locales qui pourraient mettre fin au règne du parti au pouvoir depuis l'indépendance. C'est le 6e. Le candidat du parti Chama Chama Pinduzi, 6e au pouvoir, John Magufuli, a qualifié mardi de honte pour le pays les assassinats d'albinos et dénoncé des croyances totalement absurdes. Un albinos a été hospitalisé près de Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie, après avoir été attaqué à la machette. Pas moins de 76 albinos ont été tués en Tanzanie depuis 2000, leurs membres pouvant être revendus aux alentours de 530 euros et leur corps entier atteignant 66 150 euros selon des experts de l'ONU. Le Rwanda s'est défendu des accusations d'ingérence au Burundi qui lui reproche de vouloir déstabiliser le pouvoir du président Pierre Nkurunziza et a dit souhaiter une normalisation de la relation entre les deux pays. Le problème du Burundi n'est pas le Rwanda. Le problème du Burundi est le Burundi, a déclaré la ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo lors d'une conférence de presse à Kigali. Depuis le début de la crise politique au Burundi en avril, avec la forte contestation populaire contre un troisième mandat de M. Nkurunziza, finalement réélu mi-juillet, les relations avec son voisin rwandais n'ont cessé de se tendre. En Afrique du Sud, la police anti-émeute a dispersé ce matin à coups de grenades assourdissantes un groupe d'étudiants. Selon l'AFP, ces derniers manifestaient contre l'augmentation de leurs frais de scolarité devant le siège du gouvernement à Pretoria. Quelques étudiants parmi les milliers qui manifestaient avaient jeté des pierres sur des policiers et mis le feu à des toilettes mobiles sur la pelouse d'Union Buildings où le président Jacob Zuma doit s'adresser à la foule à l'issue d'une réunion avec les leaders de la contestation. Malgré les grenades assourdissantes, plusieurs manifestants continuaient de tenter de forcer les grilles qui les séparaient du siège du gouvernement, réclamant que le président Zuma vienne leur parler. Avant les heures, le ministre de la Sécurité publique, David Malbo, s'était adressé à la foule, assurant qu'une solution à l'amiable allait être trouvée et demandant aux manifestants d'être patients. Les étudiants ont commencé à manifester la semaine dernière et protestent à travers tout le pays contre l'augmentation des frais de scolarité qui empêchera, selon eux, les plus pauvres d'avoir accès à l'enseignement supérieur. Ils dénoncent plus généralement le manque d'opportunités dans un pays où la moitié des jeunes est au chômage.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Cameroun, les conditions de détention des prisonniers préoccupent les associations de défense des droits humains. Entre autres griefs, la surpopulation carcérale, la violation des droits fondamentaux des détenus. Les autorités camerounaises justifient cet état de choses par la montée en puissance de l'insécurité suite aux exactions du groupe extrémiste Boko Haram et aux violences qui renaissent en Centrafrique. Le point avec notre correspondant à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka.
Beaucoup de prisons au Cameroun sont construites avec une capacité d'accueil d'environ 500 détenus. Mais certaines, comme la prison centrale de Maroua, contiennent plus de 3000. Une situation due à l'insécurité ambiante dans le pays, d'après Ngué Emmanuel, un des responsables de la prison.
La prison centrale de Maroua est pratiquement inondée de ses adeptes de secte Boko Haram. Ça nous donne trop de travail, nous avons perdu le sommeil. C'est invivable. Nous faisons avec les moyens de bord pour essayer de tout faire pour garder ces gens-là qui ne dorment pas et qui tentent tout le tour pour pouvoir s'en aller.
Parmi les prisonniers de ces pénitentiaires figure Eric Nguema, qui dénonce les procédures d'arrestation qui, selon lui, ne respectent pas les normes.
On sortait à l'école avec des camarades et puis on nous a ramassés. On a arrêté des braqueurs. On les a fait entrer dans la cellule où il y avait des mineurs. On a fait entrer dans la même cellule que nous. Et les gars nous ont franchement baston là-bas dans, parce que c'était furax. Ils ont baston là-bas dans, j'ai encore des séquelles, j'ai encore des blessures au corps. Donc franchement baston là-bas. La nourriture qu'on t'apporte, les grands bandits sont dans la cellule, les récupèrent. Donc toi, tu ne manges pas. Tu n'as pas de place pour te baigner. Tu n'as pas de place pour te coucher même d'abord. C'est pas du tout beau à voir parce qu'on abuse de certains là-bas. Et sexuellement et moralement, tout ça.
Il parle aussi d'extorsion dans les prisons.
Tu dois payer d'abord les frais des cellules quand tu entres, aux gendarmes ou aux policiers. Tu payes encore au chef des cellules qui est à l'intérieur, qui est encore prisonnier comme toi. C'est comme ça que ça se passe.
En septembre dernier, Amnesty International, dans son rapport publié, affirme que 50% des prisonniers sont des suspects Boko Haram.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ailleurs dans le monde, ici aux États-Unis, pendant 11 heures hier, l'ex-chef de la diplomatie américaine Hillary Clinton a défendu devant des républicains hostiles de ses décisions avant et après les attaques contre la mission diplomatique de Benghazi en Libye, une performance marathon célébrée par ses partisans dans la nuit du 11 septembre 2012. Des assaillants extrémistes avaient attaqué l'enceinte diplomatique américaine, puis l'annexe proche de la CIA, tuant l'ambassadeur Chris Stevens et trois autres Américains patiemment. Avec par moments une pointe d'agacement, Hillary Clinton a redit assumer ses responsabilités, admettant que la sécurité n'était pas au niveau. Au terme de cette audition fleuve, la candidate démocrate à la Maison-Blanche semblait avoir rempli ses objectifs. Ne pas trébucher, éviter les faux pas, ne pas s'emporter face à des républicains qui, toute la journée, l'ont accusé de négligence et de manipulation politique autour de la tragédie. La distinction entre réfugiés et migrants économiques, un pilier de la réponse de l'Union européenne à la crise migratoire, induit une opposition entre de bons et de mauvais migrants, déplore la sociologue française Jocelyne Streif-Fenard dans un entretien à AFP. Fluctuante selon l'époque, cette distinction conduit à n'aborder l'immigration qu'en termes de contrôle et de répression, regrette par ailleurs cette spécialiste des migrations directrice des recherches au Centre national de la recherche scientifique CNRS. Et c'est ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le prochain, c'est dans 50 minutes, toujours sur VOA Afrique. Restez fidèles à l'écoute. Au revoir.
«
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.